Forum de Midi Première, Fabrice Lambert.
Merci de nous suivre en direct jusqu'à 13h. C'est un sujet qui n'est pas toujours facile à porter en débat et pourtant on en parle de plus en plus, les droits des personnes concernées par un questionnement sur leur identité masculine ou féminine. De façon globale, on parle des personnes transgenres. On verra dans un instant qu'il est important d'abord de choisir les bons mots quand on évoque cette question. Transgenre, transsexuel, le premier acte à poser est de parler avec justesse de cette question. On va essayer de le faire jusqu'à 13h. Différentes actualités à travers le monde ont montré la récurrence des actes contre les transgenres. On appelle ça la transphobie, au même titre que l'homophobie pour les homosexuels. Que prévoit la loi quant aux droits des hommes et de ces femmes qui souhaitent changer d'identité? Quels sont tous les enjeux sur cette question? N'hésitez pas à apporter des commentaires, la page Facebook de l'émission, le site lapremière.be et puis le SMS, vous le savez, je vous le répète, depuis midi, 60-31, 75 centimes, le message. Isabelle Rorive est avec nous comme première invitée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à la faculté de droit de l'ULB, directrice du Centre Perelman de philosophie du droit. C'est vrai que sur cette question des transgenres, la question du droit est extrêmement importante. On va en parler jusqu'à 13h. Vous avez tenu hier soir un colloque au sein de l'ULB et vous avez fondé ce qu'on appelle l'Equality Law Clinic depuis 2014. Un centre qui gère ces questions de discrimination, pas nécessairement uniquement les transgenres, mais aussi d'autres personnes. Merci d'être avec nous. Et puis, un invité particulier, c'est Louis qui est avec nous. Je vais vous demander de bien être proche du micro. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes, Louis, c'est un prénom d'emprunt, hein. Vous êtes membre des groupes de travail législation et médias et vous êtes responsable du pôle jeunesse de l'association Genre Pluriel. Merci d'être là. On parlera avec vous, si vous le voulez bien, sans être trop indiscret, de votre vécu en tant que personne transgenre. Merci d'être là avec nous. Isabelle Rorive, dans une première question, je disais une prudence par rapport au terme qu'on utilise. D'abord, est-ce que c'est un sujet qui commence à être plus facile à aborder? Est-ce que les tabous sont en train d'être levés par rapport à ce débat sur les transgenres?
Alors, je ne suis pas certaine que les tabous soient levés parce qu'ils touchent vraiment à l'essence de la binarité des genres, comment nous, tout un chacun, nous définissons comme homme ou comme femme. Et il reste compliqué pour la plupart des personnes qui ne sont pas au courant de cette thématique de pouvoir en parler. Ça touche à une altérité irréductible et les représentations des médias restent très stéréotypées. Soit on est dans le glamour, le people, soit on est dans une sorte de victimisation d'image particulière de ces personnes.
Oui, soit ou souvent, on résume la question du transgenre à l'opération, à ce qu'on appelle la transsexualité, à la chirurgie. Ce n'est pas nécessairement une question qui est forcément liée tout de suite à cette question de transgenre.
Elle n'est certainement pas liée tout de suite. Grande majorité des personnes qui se définissent comme étant des personnes transgenres ne souhaitent pas se faire opérer. Et donc, cette réduction de la transidentité à ce qu'on appelle de manière erronée le transsexualisme ne correspond pas à la réalité.
Oui, je faisais particulièrement attention en début d'émission à bien prononcer le mot et se dire qu'un des premiers actes à poser sans doute, c'est de bien parler, d'utiliser les bons mots. Il y a une chose que peut-être peu de personnes connaissent. Il y a deux manières de se positionner en tant qu'homme ou femme. Il y a le sexe biologique et puis il y a ce qu'on appelle plutôt le côté psychosocial, toutes les habitudes, le vêtement, la voix. Alors on est transgenre ou bien on est cisgenre. Je ne connaissais pas ce mot cisgenre.
Alors, le terme cisgenre a été forgé évidemment par les psychologues sociaux, mais c'est vraiment l'idée qu'on ne doit pas confondre le sexe d'une part et le genre de l'autre. Voilà, l'identité de genre, c'est la manière dont une personne se sent dans son intimité. C'est vraiment un droit à l'autodétermination. Elle exprime ce genre dans la manière dont elle se présente dans ses relations sociales. Mais ça reste vraiment un terme coupole, puisque quand on parle avec les personnes qui se qualifient comme transgenres, on est face à des réalités qui sont très très différentes et que le droit a vraiment beaucoup de difficultés à capturer, puisque le droit utilise, parce que vous parliez de la terminologie, le terme transsexualité. La loi du 10 mai 2007 est la loi dite sur la transsexualité et donc ne s'occupe, ou en tout cas ne prend en considération qu'une une infime partie oui. des personnes dites trans.
Quand on regarde l'actualité, on en parlera peut-être, il y a eu pas mal d'événements dernièrement concernant des attaques contre des transgenres. Il y a eu ce fameux bus en Espagne qui a circulé avec une indication, un garçon c'est un garçon, une fille c'est une fille. Je vais me tourner vers Louis, vous êtes concerné par cette problématique. Vous aviez souhaité conserver l'anonymat, pourquoi ?
Alors, tout simplement parce que j'exerce un métier public par ailleurs et donc je réserve ma réelle identité à ce métier-là.
Quelle est votre histoire personnelle, si on peut en parler, qui est liée à cette question d'identité ?
Alors, je ne vais pas parler de mon histoire personnelle parce qu'elle n'a rien d'extraordinaire, mais par contre, justement, je vais peut-être parler de plusieurs histoires parce qu'un des soucis majeurs avec la représentation des personnes trans, c'est que souvent, un cas particulier est pris pour une généralisée.
Oui.
Donc, je vais essayer de ne pas tomber là-dedans et de justement représenter un peu de la diversité parce que les images médiatiques qui sont données aujourd'hui, c'est souvent une image très très biaisée et très limitée des personnes transgenres qui sont tout aussi diverses que les personnes cisgenres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe sociale particulière. C'est des personnes qui ont autant de diversité que si elles n'étaient pas transgenres. Donc les questions vont être différentes et les parcours de vie vont être très différents.
Il y a un gros travail à faire sur les stéréotypes, si je vous suis bien. Quels sont les clichés les plus courants quand on parle d'une question comme le transgenre ?
Alors, le cliché le plus souvent rencontré par rapport à la transidentité, c'est oui. vraiment c'est vraiment la femme trans qui, dans la quarantaine, spectaculairement déciderait de changer d'apparence. Et ça, c'est vraiment le cliché qu'on retrouve le plus souvent. Et alors, pas mal de clichés aussi assez misérabilistes qui ne se focalisent que sur des personnes qui auraient de grandes difficultés à vivre, de grandes difficultés émotionnelles. Or, c'est pas du tout le cas de la plupart des personnes trans.
Oui, quelqu'un nous dit, c'est Emmanuel, sur le site lapremière.be, merci de mettre en avant les droits des personnes transgenres et surtout leur laisser la parole, il est temps. Ça montre bien que c'est pas facile de parler de ce type de questionnement sur l'identité. On a le sentiment qu'on est parfois mal à l'aise par rapport à ce sujet-là. Est-ce que c'est un sentiment que vous sentez, vous, Louis, par rapport aux rencontres que vous faites dans cette problématique et le fait de militer, puisque c'est ça hein, pour le droit des personnes qu'on dirait différentes par rapport à leur questionnement sur l'identité.
Honnêtement, oui. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu le cas dans mon milieu professionnel où une oui. personne ne savait pas trop comment me parler du fait que la radio avait parlé de quelque chose. Donc, bon, c'est très, très souvent que les personnes ne savent pas comment engager la conversation. Et je pense que c'est une chose principale, c'est qu'on commence quand même à pouvoir l'engager, nous, en tant que personnes concernées. Et ça, c'est important. C'est une grande nouveauté, en quelque sorte, qu'on entende enfin les voix des personnes concernées elles-mêmes, qu'on arrête de parler pour nous et de nous.
Oui, Olivier nous dit par téléphone, c'est un témoignage qui nous est parvenu. J'ai eu une période, dit-il, dans ma vie où je me suis posé des questions sur mon identité sexuelle. Je m'habillais en femme et je dois dire que c'était plutôt dangereux. Je me suis fait agresser plusieurs fois. J'y ai renoncé pour des raisons sociales, mais également pour des raisons de sécurité. On a parfois le sentiment qu'on sous-estime, qu'on minimise, qu'on ne connaît pas bien les problèmes rencontrés par des personnes qui se posent des questions sur leur identité.
Oui, je dirais qu'au-delà de se poser des questions sur leur identité, c'est surtout qui assume une identité oui. ou qui ose, je vais dire, aller ailleurs que là où on aimerait bien qu'elles aillent en termes d'expression, d'habillement ou de comportement par rapport à ce qui est attendu, par rapport au genre qui leur a été assigné à la naissance. Et je pense que c'est ça qui est important de rappeler, c'est que la transphobie, c'est pas seulement des gens qui se font agresser parce qu'elles se présenteraient de façon extravagante, ce qui en soi ne légitime évidemment pas une agression, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours des personnes très bien intentionnées qui vont pratiquer une transphobie, je vais dire, ambiante, sans même le savoir. C'est pour ça que l'information est tellement importante.
Oui, merci d'être là et de témoigner par rapport à cette question-là. Je me tourne vers vous, Isabelle Rorive, comme professeure à la faculté de droit de l'ULB. C'est important de rappeler en Belgique qu'est-ce qui existe comme cadre légal concernant cette problématique.
Alors, on a un cadre légal multiple, mais la loi dont je parlais tout à l'heure, la loi du 10 mai 2007, dite sur la transsexualité, c'est une loi qui vise à permettre aux personnes trans de modifier leur état civil. Puisqu'en fait, ce dont on se rend compte et ce dont de nombreux rapports attestent, des rapports de la société civile, c'est que Une des difficultés majeures des personnes trans, c'est de devoir être dans un outing permanent, c'est-à-dire qu'elles ont une apparence physique ou la manière dont elles se présentent socialement qui est en discordance avec leur papier d'identité. Et on ne parle pas uniquement de la carte d'identité, mais on peut parler de la carte de STIB, on peut parler d'une carte pour accéder à un établissement de sport, le numéro national est genré, donc tout est genré. Et donc, il est excessivement important que ces personnes ne soient pas confrontées à cet outing permanent et donc oui. puissent modifier leur genre enregistré. Aujourd'hui, la situation en Belgique est totalement problématique par rapport au respect des normes internationales, puisqu'elle exige de la personne trans de faire une déclaration à l'officier d'état civil, mais d'avoir une attestation à la fois d'un psychiatre oui. et d'un chirurgien attestant qu'elle a été stérilisée, qu'elle a procéder à cette fameuse opération dite de conversion sexuelle et qu'elle a cette conviction intime et irréversible d'appartenir au sexe.
Oui, donc il faut à la fois, pour vous répéter à la voix, l'avis d'un psychiatre, d'un médecin spécialisé qui va se poser sur cette question-là et vous dites, on va en parler, il faudrait dépsychiatriser cette question-là. Que ce soit fait sur une simple déclaration d'honneur de la personne qui souhaite notamment changer de prénom, par exemple. Et puis, il faut l'acte aussi, la preuve d'un chirurgien. Là, vous souhaitez aussi que ce ne soit pas nécessaire.
Oui. Écoutez, je le souhaite, mais c'est surtout pour respecter des standards internationaux qui sont vraiment très clairement établis. C'est-à-dire que la Belgique est aujourd'hui tout à fait en contrariété avec ces obligations internationales.
Est-ce qu'on fait figure d'exception, par exemple, par rapport à ce sujet-là, en tant que cadre légal ?
Alors, on commence à faire vraiment figure d'exception, parce que parmi ces 5 dernières années, on a eu, si on prend uniquement l'Europe, on a eu des avancées dans de nombreux pays en Europe, et je n'en cite quelques-uns, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, Malte, l'Irlande, l'Italie, la France et la Norvège. Vous remarquerez que parmi les États que j'ai cités, on a des États qui ne sont pas généralement épinglés comme étant les plus progressistes sur ces questions parfois qualifiées d'éthique, comme Malte ou comme l'Irlande, qui ont des législations bien plus avancées et bien plus respectueuses des droits fondamentaux que la Belgique.
Oui, on parlera aussi peut-être de cas que j'ai vu dans la presse avec des décisions judiciaires. Il y a un cas en France, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Michel Blanc, je crois Michel Le Blanc, qui était harcelé sur les réseaux sociaux. Son harceleur a écopé de 6 mois de prison, je pense, 3 ans de suppression de réseaux sociaux. On voit que la justice commence à s'intéresser à ce sujet-là. Il y a un cas aux États-Unis avec une jeune fille qui est devenue un garçon, se pose la question des toilettes dans les écoles. On a le sentiment ces questions arrivent, Isabelle Rorive.
Oui, ces questions effectivement arrivent. Il y a des décisions de justice, il y a des arrêts aussi de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la transphobie. La Cour européenne des droits de l'homme, qui elle-même utilisait le terme de transsexualité, maintenant utilise le terme d'identité de genre ou de discrimination dans l'identité de genre. C'est très clair qu'il y a un momentum à la fois social, politique et juridique.
Oui, et un commentaire qui nous parvient, j'aimerais le relayer, c'est Christian qui vient de nous appeler. Il nous dit attention de ne pas résumer à la présence des transsexuels comme des personnes marginales. C'est faux, nous dit-il. Je connais beaucoup de spécialistes, dit-il, de la fertilité, de la médecine reproductive, notamment ici dans certaines universités. Beaucoup pensent que les transsexuels sont des marginaux. C'est faux, nous dit Christian. Louis, un commentaire là-dessus ?
Alors, moi, personnellement, je n'utilise pas le terme transsexuel parce qu'il a été inventé par le milieu psychiatrique pour justement essayer de diagnostiquer les personnes trans. Et c'est justement ça qui est à la base de ce que dénonce l'auditeur ici. C'est-à-dire qu'on va marginaliser avec des outils notamment médicaux et institutionnels les personnes en les représentant comme déviantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, le manuel diagnostique psychiatrique, le DSM, définit encore les personnes trans comme des personnes souffrant d'un trouble mental de l'identité. Et c'est ça qui va produire de la marginalisation, de la stigmatisation, parce qu'il est vrai que dans notre société, être étiqueté avec un trouble mental, c'est encore très stigmatisant. ans, a fortiori quand on n'en souffre pas.
Oui, 6031, c'est le SMS si vous souhaitez, 75 centimes le message. On nous demande quelles sont au quotidien les discriminations les plus courantes par rapport à des personnes qui sont en difficulté ou en questionnement par rapport à l'identité masculine et féminine. Comment ça se passe au quotidien dans les personnes que vous rencontrez ?
Alors je dirais que les personnes soient en questionnement ou soient pleinement dans leur vie très, très certaines de leur identité, les discriminations sont assez semblables. Ça va du jour où vous arrivez aux urgences avec une cheville foulée et où le médecin va s'intéresser beaucoup plus au fait que vous ayez une barbe alors qu'il est noté femme sur votre carte d'identité que de votre cheville foulée. Mmh. Ça va de là, qui est encore relativement anecdotique, jusqu'à l'impossibilité de trouver un emploi parce que vos papiers sont discordants et donc soit vous décidez d'annoncer très très vite la couleur à l'employeur en disant voilà mes papiers sont discordants, soit vous l'annoncez à la fin et là vous avez une petite chance de mieux passer. Donc c'est de la discrimination à l'embauche, c'est de la discrimination au logement, c'est de la discrimination dans les études aussi. On a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, moi je m'occupe du pôle jeunesse de Jean Pluriel, donc oui, je suis bien placé, qui nous contactent pour dire voilà, à l'école, j'arrive pas à faire reconnaître mon identité et je suis outé systématiquement. C'est dans toutes les sphères de la vie où vos papiers entrent en jeu que vous rencontrez de la discrimination. Et à ça s'ajoute évidemment la discrimination un petit peu ordinaire qui est l'humour sexiste qui va être très très oppressant pour tout le monde, mais aussi pour les personnes transgenres. C'est les réflexions que vous entendez dans la vie de tous les jours.
Vous étiez au colloque hier soir du côté de l'ULB, donc je rappelle en début d'émission, j'ai rappelé qu'il y avait un colloque à Bruxelles organisé par l'ULB sur ces questions-là. Est-ce que vous étiez, Louis, présent
oui,
à la soirée d'hier ?
J'avais été invité à prendre la parole.
Je n'ai malheureusement pas pu y aller, mais j'ai envie de savoir quels sont les commentaires peut-être du public par rapport à ces questions-là. Quand on met en débat ce type de questions, quelles sont les questions qu'on vous pose dans le grand public quand on parle de transidentité ?
Alors là, en l'occurrence, on parlait précisément de la modification de la loi qui est prévue donc, dans l'accord de gouvernement. Donc la plupart des questions ont été axées sur justement quelle sera la loi, puisque vous savez qu'il y a une proposition de loi qui va être très prochainement déposée. Mmh. Et l'essentiel des questions était de savoir ce que va contenir ce projet de loi. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore pu lire le texte non plus. Hein. Les associations, notamment Genre Pluriel, ont pu rencontrer les cabinets qui sont occupés de cette proposition de loi. Mais on n'a toujours pas vu le texte. Donc là, on est très impatient et impatiente.
Oui, on va en reparler avec Isabelle Rory dans un instant pour terminer, qui est professeure à la faculté de droit de l'ULB. Ça peut paraître anecdotique, mais en préparant l'émission, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de le cinéma, le petit écran, la télévision, la chanson, le milieu du mannequinat aussi. Il y a un mannequin brésilien qui est extrêmement célèbre, qui est transgenre. Est-ce que vous avez le sentiment, là, je ne sais pas si Isabelle Rory veut répondre ou bien Louis, que ces questions-là sont amenées aussi dans la sphère publique par des médias, comme la télévision, le cinéma.
Alors,
il y a une série, je pense, une série TF1 qui s'appelle Louise, je pense, qui est en
production. Oui, malheureusement, j'ai pris connaissance de cette série ce matin même. Et par exemple, si on prend cet exemple de Louise, on a là quelque chose qui peut sembler une bonne intention, c'est-à-dire rendre public et rendre visible la communauté trans. Et ça, c'est quelque chose de très positif parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Il y a de moins en moins de gens qui ne savent même pas que les personnes transgenres existent. Par contre, ce qu'on rencontre, c'est très très souvent des bonnes intentions qui finalement dérapent complètement quand on a l'actrice principale de la série en question qui annonce en interview qu'elle a toujours été fascinée par les transsexuels et qui va ensuite parler de cabaret, de drag queen. Donc on a là vraiment le bon exemple l'ignorance qui se veut bien intentionnée. Le problème, c'est que ces personnes font aussi un très gros travail de sape de l'information du grand public justement sur les réalités, parce que c'est totalement biaisé.
Oui, attention de revenir dans les stéréotypes. Isabelle, pour l'ULB, Rorive nous parlait de ces personnes qui ne sont pas nécessairement les plus nombreuses en Belgique qui souhaitent changer nécessairement de sexe. Elles veulent juste assumer leur sentiment d'être plutôt une femme alors qu'elles sont nées hommes. Est-ce que c'est important de parler aussi de cette question et de simplifier un peu, de désacraliser cette question liée à l'identité ?
Alors, je dirais plutôt que désacraliser, il faudrait essayer de désessentialiser. C'est-à-dire que il y a tout un discours sur le fait de naître homme, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose, si je peux me permettre, puisque justement, on ne naît ni homme ni femme. On est un bébé humain, alors éventuellement mâle, femelle ou intersexué, parce qu'on oublie que ces personnes-là existent. Et donc, on décide d'assigner un genre à la naissance aux enfants. Et c'est ça qui est problématique, finalement, parce que c'est ça qui va faire qu'on va essentialiser une personnalité. on ne vous essentialisera pas par rapport à quand vous êtes né, on ne vous a pas assigné journaliste à la naissance, c'est quelque chose qui s'est construit avec la société, avec votre entourage et votre façon de voir le monde. C'est la même chose pour votre identité de genre qui s'est aussi construite au fil des jours et des années. Et donc, c'est la même chose pour l'identité de genre de toute personne, qu'elle soit transgenre ou cisgenre. Donc, il faut arrêter de lier ça à des questions de biologie ou de sexe ou d'essentialité, parce que ça n'a aucune cohérence et ça n'a par ailleurs pas de réalité scientifique.
Oui, est-ce que vous comprenez, pour poser une question peut-être un peu naïve, peut-être un peu brutale, je m'en excuse si c'est le cas, est-ce que vous comprenez parfois que des gens sont mal à l'aise par rapport à des personnes qu'ils rencontrent en face d'eux, qui ne parviennent pas à se positionner par rapport à l'identité homme-femme ? Est-ce que vous comprenez ce sentiment ?
Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut encourager les gens à poser des questions. C'est toujours moins violent de demander à une personne « comment dois-je m'adresser à vous ?» plutôt que de supposer et de se tromper et donc d'être la 150e personne qui va dire « monsieur » à une femme ou « madame » à un homme.
Oui, bonjour, nous dit cordialement Benoît sur SMS. Il nous dit « on est tout de même garçon ou fille physiologiquement ?» Point d'interrogation. Merci de m'éclairer à ce sujet.
Ah non, on est mâle, femelle ou intersexué. Fille ou garçon, ou homme ou femme, ou encore plein d'autres possibilités. Il y a des personnes non-binaires, des personnes à genre. Ça, c'est des identités de genre. Les identités, ce n'est pas inné. Ce qui est inné, c'est le fait d'être effectivement mâle, femelle, intersexué. Mais le fait de se construire comme un garçon, le fait de se construire comme une fille ou en dehors de ce binarisme-là, ce n'est pas déterminable à la naissance. Ça ne se voit pas, il n'y a pas de test, il n'existe même pas de test en neuropsychologie pour le savoir. Donc, c'est aux personnes de s'autodéfinir. Donc, on ne naît pas femme, on le devient. Bah, c'est vrai qu'on soit une femelle, un mâle ou intersexué.
Autre SMS qui parvient. Chaque personne, nous dit Michel, atteignant 18 et jusqu'à 21 ans, devrait être contrainte à confirmer ou infirmer son identité gratuitement. Nom, prénom, genre, état civil.
Ah, c'est marrant, mais peut-être il y a plus simple. On peut aussi simplement cesser d'assigner les bébés à la naissance à un genre et arrêter de mettre une mention de genre ou de sexe sur les papiers d'identité. C'est une idée qui arrive régulièrement et c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose pour identifier une personne. Par exemple, ma carte d'identité ment sur ce critère en ce qui me concerne. Oui. Ça ne m'empêche pas de passer les douanes. Éventuellement, ça me pose des difficultés pour passer les douanes, mais je suis toujours identifiable, même si cette case dit des mensonges. Oui. Donc si elle n'existait pas, ça marcherait tout aussi bien.
On est vraiment au cœur du débat. J'ai l'impression que ce sont vraiment les questions essentielles qui sont posées. Je me tourne vers vous, Isabelle Rorif, pour terminer, professeure à la faculté de droit de l'ULB. Vous avez créé Equality Law Clinic en 2014. Sur cette question-là, quelle est aujourd'hui sa vraie mission ?
C'est la mission de l'université, c'est-à-dire d'avoir un monde académique qui puisse s'engager dans des questions sociales. Oui. Notre idée, donc, j'ai créé ça avec Emmanuel Bribosia, qui est une collègue à l'ULB, c'est de se pencher en collaboration étroite avec la société civile sur des situations criantes de discrimination. Parce que bien évidemment, même si il ne faut pas marginaliser les personnes trans, c'est évident, les rapports des organisations internationales de droits de l'homme et les organisations nationales de droits de l'homme dénoncent des situations totalement criantes de discrimination.
Ce qu'on pourrait dire aux auditeurs et auditrices, il nous reste une minute, vous avez diffusé hier, je pense, un documentaire lors de la soirée au colloque, peut-être important de le citer, je pense que c'est, je ne sais plus le nom exact du documentaire.
Le documentaire, c'est Trans, c'est mon genre.
Trans, c'est mon genre.
C'était une manière de permettre à un public non averti de pouvoir écouter des témoignages, parce que c'est un documentaire qui est fait de témoignages, avec des aspects qui peuvent être déconstruits également.
C'est une belle porte d'entrée, je trouve. Je l'ai vu, je l'ai regardé sur les réseaux, sur YouTube. Trans, c'est mon genre. Je vous invite, ceux qui sont concernés, qui ont envie de s'intéresser à cette problématique, comme on l'a fait depuis 12h30, de regarder ce documentaire, Trans, c'est mon genre. Merci beaucoup, Isabelle Rorif, professeure à la faculté de droit à l'ULB. Merci d'avoir été présente sur cette question-là. Et bien sûr, merci à Louis d'avoir apporté votre témoignage. Vous êtes, je rappelle, un responsable du pôle jeunesse de l'association Genre Pluriel. Il est possible, allez-y.
Il est possible de nous retrouver beaucoup d'informations sur notre site genrepluriel.be.
Genre Pluriel, et il est possible, j'enchaîne, de nous réécouter pour ceux qui le souhaitent via la plateforme Ovio, lapremière.be. Merci d'avoir été à l'écoute. Le forum reviendra dès demain, dans un instant, le journal de 13h. Très beau jeudi à vous.
Midi 13h.
Midi première.
Fabrice Lambert.